Décryptage, Anne Cantner.
Nouvelle journée de manifestation ce jeudi en Haïti, nouvelle démonstration de colère à l'appel de l'opposition politique et à l'appel d'un collectif de lutte contre la corruption. Depuis des semaines, le pays est paralysé, le quotidien de plus en plus difficile pour les Haïtiens. De nombreuses voix réclament la démission du président Jovenel Moïse.
Les négociations dont parle le président, on n'en veut pas. Il avait déjà fait une tentative et voilà qu'il revient avec sa proposition de dialogue. Oui, le dialogue est bon pour le pays, oui, on en a besoin, mais on ne peut pas le faire avec Jovenel, car on ne peut rien espérer de lui. On va débloquer le pays en se débarrassant de Jovenel Moïse, qui n'est utile à rien.
Alors comment en est-on arrivé là et quelle peut être l'issue de cette crise économique, sociale et politique en Haïti? Bienvenue dans Décryptage. Avec nous pour en parler, Stéphanie Schuller, reporter au service international RFI. Vous couvrez l'actualité d'Haïti depuis plus de 10 ans. Bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
Nous sommes également en ligne avec Amy Letzer. Bonsoir, bonjour plutôt, puisque vous êtes en ligne de Port-au-Prince où il est midi et 12 minutes. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner, bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs du PIF.
Vous êtes économiste, vous avez écrit en 2017 « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Votre livre a été publié aux presses de l'université Quisqueya. La crise couve depuis longtemps en fait en Haïti, mais les manifestations se sont multipliées depuis la fin du mois d'août à cause d'une pénurie de carburant.
Les négociations dont parle le président, on n'en veut pas.
C'est Nangoumé. On a été obligé de se battre dans les dernières stations qui distribuaient de l'essence. Tous ces coups de galon qu'on s'est donnés les uns les autres. Quand une station ouvrait, n'importe qui pouvait être victime. On n'en peut plus, donc on observe une journée de grève pour que le gouvernement puisse se pencher sur la situation. Mais comme c'est un gouvernement muet, il ne dit rien. C'est la misère totale, on n'a plus rien pour vivre. Au marché noir, l'essence est vendue 3 ou 4 fois le prix normal. Nous, les taxis-voitures, on ne peut pas fonctionner à ce tarif. Les chauffeurs de moto peuvent répercuter ça sur leurs courses. Mais nous, les camionnettes, on ne peut pas.
Le désespoir d'un chauffeur de taxi, c'était au micro de notre correspondante Amélie Baron il y a quelques jours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de carburant en Haïti, Amy Letzer?
Bon, la crise du carburant, en fait, est arrivée parce que, justement, il y a un déficit de gouvernance au niveau de ce produit stratégique. Parce qu'en fait, et on n'arrive pas à institutionnaliser le prix à la pompe du carburant. Donc, il y a un écart entre le prix vendu à la pompe et le prix acheté à l'étranger, ce qu'on appelle la subvention. Et l'État n'a pas la capacité financière aujourd'hui pour supporter cette subvention comme cela. Ça a toujours été dans le passé. Et ça crée une situation d'incapacité pour faire des commandes suffisantes par rapport à la demande du marché.
Alors, cette pénurie a relancé un mouvement de protestation entamé l'année dernière déjà. Dans les rues, on voit de nombreux galons jaunes, ces bidons dans lesquels on met l'essence. Ils sont devenus l'un des symboles des manifestations, mais on entend aussi des slogans sur le manque de nourriture, les coupures d'électricité, la difficulté à se faire soigner ou à envoyer les enfants à l'école. Stéphanie Schuller, à quoi ressemble le quotidien des Haïtiens en ce moment?
En ce moment, en fait, c'est tout un pays qui est bloqué. Ça fait maintenant la 5e semaine que le pays est bloqué, en fait, par des barricades, des manifestants, c'est-à-dire en fait il est difficile de circuler dans les rues de Port-au-Prince, mais il est également difficile de circuler dans les rues de province, il est difficile de circuler sur les routes nationales qui relient les différentes villes et les différents départements d'Haïti les uns aux autres, donc ça rend la situation extrêmement complexe, si vous pouvez imaginer Anne, puisqu'il est difficile d'acheminer les produits de première nécessité qui sont pour la plupart importés. Il est difficile d'acheminer également la nourriture importée, mais aussi l'eau potable, par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains départements en Haïti, on commence à avoir de graves pénuries. Il y a, par exemple, pas plus tard que je pense que c'était aujourd'hui ou hier, l'un des maires de l'île de Gonâve, qui est la plus grande île d'Haïti, qui est située au large de Port-au-Prince, si vous voulez, c'est fait partie du département de l'Ouest, lançait un cri d'alarme en disant qu'en fait, sur son île, on allait tout droit vers une crise humanitaire. Mais il y a aussi, ça c'est tout le côté en fait, en approvisionnement en fait des choses de première nécessité et de nourriture et d'eau. Mais il y a aussi autre chose qui est très important à souligner, c'est-à-dire les gens ont du mal donc à se soigner parce qu'ils peuvent difficilement rejoindre parfois les hôpitaux ou alors des centres de santé dans leurs différentes régions. Il y a aussi la possibilité, la difficulté des écoles, si vous voulez, puisque les écoles sont fermées depuis maintenant 5 semaines. Les élèves ne peuvent pas aller en classe et ça pose évidemment d'énormes problèmes pour toute la population qui reste, en fait, depuis presque maintenant 5 semaines, cloîtrée chez elle.
À ces difficultés s'ajoute l'inflation qui a fait flamber les prix et la monnaie nationale qui est fortement dévaluée. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation, Edzer Emile?
Écoutez, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette inflation. Et d'abord, c'est le taux de change, étant donné que Haïti est une économie dépendante des importations. Donc, avec un taux de change aussi élevé, donc ça affecte directement les prix des produits importés. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, et avec le blocage au niveau de l'accès des routes secondaires et nationales, donc ça fait qu'il y a une difficulté pour approvisionner les marchés, donc ça crée de la rareté, et la rareté fait flamber les prix. Mais aussi, la rareté de Corbeau, on constate depuis 2 mois aussi, fait que justement, il y a une rareté et importante au niveau des différents marchés, mais aussi l'insécurité qui fait, c'est plus difficile de dédouaner, c'est plus difficile aujourd'hui de faire des affaires au niveau du bas de la ville. Donc ça complique toute la situation, mais aussi le climat politique qui alimente des anticipations négatives. Donc ça fait que justement que les entreprises auront tendance à monter les prix et ça affecte énormément le pouvoir d'achat des gens de la population.
Alors face à ce mécontentement, à cette colère qui gagne l'ensemble du pays, le président lui est quasiment absent. Il s'est exprimé une première fois fin septembre dans une allocution télévisée qui avait été diffusée à 2h du matin et de nouveau il y a 2 jours.
2004-2019, 15 ans après, où sommes-nous? Montrez-moi, on est plus mal. Aujourd'hui, on a l'occasion de combattre ce système. Ce système est devenu un serpent à plusieurs têtes, car il a pu se régénérer. Et il se régénère dans un contexte, les régimes de transition. Aujourd'hui, vous le peuple, ne nous menez pas par là. Ne laissez pas le système se régénérer. Faisons ensemble la dernière transition. Cette fois, ce sera la dernière. Votre président, qui parle là avec vous, est prêt à entrer dans cette transition pour qu'il n'y ait plus de transition. Il faut que ça soit la dernière afin que lorsqu'on votera pour un président, il ait vraiment le pouvoir. Quand on votera pour un président, on pourra lui dire « voilà le pouvoir que je vous donne ».
Le président faisait allusion à 2004. 2004, c'est l'année à laquelle Jean-Bertrand Aristide a été chassé du pouvoir. On l'entend dans cet extrait, le chef de l'État, Jovenel Moïse, n'a pas du tout l'intention de quitter son poste, malgré les appels de plus en plus pressants de l'opposition notamment. Edzer Emile, je vais vous poser une question un peu naïve. L'opposition, c'est qui en Haïti?
Il y a une opposition institutionnelle formée par des sénateurs et des partis politiques, mais aujourd'hui, l'opposition, pour moi, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment un nombre très élevé d'organisations, de personnes, de groupes, de gens qui sont contre le président, qui veulent qu'il parte du pouvoir. Mais aussi, c'est la satisfaction générale avec une économie effondrée. Aujourd'hui, on a la pire année économique depuis le tremblement de terre, avec l'inflation record des 11 dernières années, mais aussi des gens qui sont frustrés par rapport à la corruption, par rapport à l'enrichissement personnel des gens du pouvoir, par rapport à l'impunité concernant le Pétro-Caribé. Donc pour moi, l'opposition, c'est vraiment assez large et ça va au-delà des partis politiques et des sénateurs et députés de l'opposition institutionnelle.
Les responsables politiques, ceux de l'opposition institutionnelle, comme vous dites, qui demandent la démission du président, ont-ils un plan pour la suite?
Écoutez, ils ont formulé quand même une sorte d'alternative. Mais je me demande est-ce qu'effectivement ça a pu gagner de la confiance. Et pour moi, c'est extrêmement important aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui ne font pas confiance au président, mais c'est éventuellement la même chose pour l'opposition parce que il n'arrive pas toujours à convaincre tout le monde par rapport à l'alternative qui doit venir après éventuellement la chute du président. Et pour moi, et ça reste quand même compliqué parce que le problème qu'on a aujourd'hui, pour moi, va au-delà du président. Il y a des problèmes assez structurels qui datent pas aujourd'hui et qui demande beaucoup plus. Et c'est sûr qu'on va devoir faire face à ça avec lui ou sans lui. Et ça, écoutez, avec une économie effondrée et une économie dépendante des importations, avec autant de gens en situation de sécurité alimentaire, aujourd'hui, on tourne autour de 50% de la population rurale qui est en situation d'insécurité alimentaire. Donc, au lendemain de son départ éventuel, ça va pas être résolu immédiatement. Donc, pour moi, tout ça fait peur, mais aussi, il y a un manque de confiance aussi bien que ce soit du président pour le président, mais aussi bien pour l'opposition institutionnelle qui veut bien lui remplacer.
Et ce manque de confiance, il se traduit aussi au-delà des frontières, la vie politique qui est complètement bloquée. 4 premiers ministres se sont déjà succédés depuis que le président est entré en fonction. Le dernier a été démis par le Parlement en mars et depuis, rien, toujours pas de gouvernement. Ça complique aussi sérieusement les choses puisqu'en l'absence de gouvernement, un certain nombre d'organisations internationales gèlent leur soutien financier. Qu'est-ce que ça représente comme perte pour le pays, Stéphanie Schuller?
Alors, je pourrais pas vous dire exactement les chiffres exacts, c'est peut-être plutôt Retzer Emile qui pourrait répondre à ça, mais une chose est sûre, parce que vous avez évoqué à l'instant la difficulté pour Jovenel Moïse de remettre en place un gouvernement. En fait, depuis le départ du Premier ministre Séan, c'était en mars en effet, Jovenel Moïse a essayé à deux reprises en fait de proposer, de désigner, en fait il a désigné des premiers ministres qui ensuite n'ont pas reçu l'aval du Parlement, soit pas du tout l'aval du Parlement, soit juste en fait de la Chambre des députés, mais pas encore du Sénat, ce qui fait qu'aujourd'hui Haïti se trouve en difficulté, puisque en effet en fait on a un président qui n'a pas vraiment de gouvernement et qui bientôt, et ça aussi peut-être on va parler de ça tout à l'heure, n'aura plus de parlement, puisque les élections législatives auraient dû se tenir en fait là en automne, mais n'ont pas pu se tenir puisque le Parlement n'a pas voté la loi électorale qui est nécessaire à la tenue de ces élections. Donc les mandats de la totalité des députés et d'une partie des sénateurs vont arriver à leur terme au mois de janvier. Et là, on va se trouver dans une situation où on a un président, mais on n'a pas de gouvernement et on n'a pas non plus de parlement fonctionnel.
Donc une vie politique encore plus bloquée et paralysée. Alors, parmi ce qu'on entend comme reproche chez les manifestants en ce moment, et parmi ceux qui se mobilisent, il y a un groupe que l'on appelle les Petro Challengers. Leur principal cheval de bataille, c'est la lutte contre la corruption. Ce groupe s'est constitué après des révélations sur le programme Petrocaribe, qui est un programme d'aide qui avait été mis en place par le Venezuela. Stéphanie Schuller, est-ce que vous pourriez nous rappeler en quoi consistait ce programme pour Haïti? Est-ce qu'on sait de la manière dont cette aide a été détournée, puisque c'est ça l'enjeu?
Et en fait, le programme Petrocaribe a été mis en place en 2006 déjà par le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez. Et ce sont des contrats, si vous voulez, qui ont été conclus entre le gouvernement vénézuélien et une quinzaine de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Et à partir de 2008, ce programme a permis aussi à Haïti de recevoir, si vous voulez, des livraisons de pétrole vénézuélien, de payer une partie de ces livraisons directement au gouvernement vénézuélien et de rembourser le reste sur 25 ans à un taux d'intérêt de 1%. Alors maintenant, il faut s'imaginer que l'État haïtien, avec cet accord Petrocaribe, était donc assez avantagé, si vous voulez, puisque l'État a revendu par la suite le pétrole vénézuélien sur le marché local en Haïti. Donc ça représentait des revenus pour lui et ses bénéfices auraient dû être investis normalement dans des projets de développement en Haïti, par exemple la construction des écoles ou de routes ou d'hôpitaux, à la création d'emplois bien sûr aussi. Mais cet argent, on a l'impression qu'il s'est presque évaporé, mais il s'est pas évaporé, hein. Alors il y a eu ces dernières mois deux rapports de la Cour supérieure des comptes en Haïti. L'un a été publié au mois de janvier et l'autre a été publié au mois de mai. Et là, on a eu quand même assez en détail, vraiment en détail, les malversations, la mauvaise gestion par les différentes administrations en Haïti, sous les différents présidents. Il y avait épinglé là les ministres, les hauts fonctionnaires, les entreprises. Et tout ça, en fait, on parle à peu près de 3,4 milliards de dollars qui ont été mal gérés ou alors carrément détournés.
Et parmi les noms qui figurent donc dans les personnes qui auraient détourné de l'argent, il y a celui du président. Donc, depuis, des membres de la société civile demandent que les personnalités concernées, donc qui sont citées par la Cour supérieure des comptes, soient jugées. Edzer Emil, est-ce qu'un procès vous semble possible?
Je ne vais pas dire que c'est possible demain matin, mais c'est obligatoire. Il faut avoir ce procès parce que pour moi, ça va inaugurer une nouvelle ère dans une nouvelle république, parce que depuis longtemps, Haïti est devenu ce qu'on appelle la république sans sanction, où on ne sanctionne pas. Et bien, je crois que pour la prospérité, pour la nouvelle Haïti, il faut arriver vraiment à réaliser ce procès qui prendra peut-être du temps, parce que ça demandera quand même beaucoup de travaux préliminaires, mais aussi, et c'est pas, je pense pas que c'est possible aujourd'hui avec ce régime en place qui est aussi impliqué et accusé dans le détournement. Et donc, pour moi, et c'est important parce que on a besoin de ressources financières pour financer le développement économique. Le petit budget qu'on a, moins que 2 milliards de dollars américains, ne sera jamais suffisant. Ce serait important de restituer des fonds, d'avoir de montants beaucoup plus importants pour faire le développement, mais aussi pour tracer des exemples pour que, à l'avenir, que les gens puissent respecter les fonds de l'État et pour qu'ils ne les détournent plus.
Et si je peux rajouter juste quelque chose, si vous permettez, ce qui est important à souligner, c'est que non seulement en fait cet argent n'a pas été investi dans les plans de développement, mais en fait Haïti de facto a une dette assez importante en fait maintenant vers le Venezuela, et ça hypothèque vraiment l'avenir des générations futures. En fait, d'où aussi, je pense en fait le Petrocaribe Challenge, ce mouvement de citoyens contre la corruption, puisqu'ils voient vraiment leur propre avenir hypothéqué parce que c'est eux qui doivent rembourser la dette au Venezuela.
Et qui compromet donc effectivement l'avenir de ces jeunes. L'un des autres problèmes au cœur des préoccupations des Haïtiens, c'est l'insécurité. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, Edzer Emil. D'abord, la violence dont ont fait preuve les forces de l'ordre en réprimant les manifestations, mais aussi celle des gangs armés. Plusieurs organisations de la société civile accusent des responsables politiques d'être liés à ces gangs. Un rapport de l'ONU sur un massacre qui avait été commis dans le quartier de la Saline en novembre 2018 va dans le même sens et explique qu'un membre de l'exécutif sera impliqué dans ce massacre. Edzer Emil, est-ce qu'on sait qui finance, qui commande ces gangs et qui leur permet de se procurer les armes qu'ils possèdent?
Il n'y a aucun secret sur le financement, le support, la protection, encore l'encadrement des gangs en Haïti, des secteurs politiques, soit du pouvoir exécutif, parlementaire ou de l'opposition, et aussi des gens du secteur privé qui financent pour leur intérêt personnel, pour protéger leurs entreprises, mais aussi pour faire de la compétition déloyale. Et donc cela veut dire qu'il n'y a pas de secret, mais c'est parce que justement il y a beaucoup de complicité, et c'est pour ça qu'on est arrivé là aujourd'hui. Le pays n'a jamais été aussi, on n'a jamais eu autant de gangs et dans ce pays par rapport à aux périodes passées. Donc on se rapproche un peu de la somalisation. De plus en plus, on a des zones de non-droit à Port-au-Prince et ailleurs. L'accès aux routes est très difficile. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et ça complique davantage même pour l'État au niveau de la perception des recettes, parce que la douane et également au niveau de la Direction générale des impôts, ils ne peuvent pas collecter normalement les taxes avec ces situations. Et aujourd'hui, on a une baisse de recettes importante qui limite énormément la capacité de l'État. Ça fait aussi fuir des entrepreneurs. Donc, on a aussi beaucoup de faillites d'entreprises avec cette situation de gang. Et également, la population qui vit dans la peur continue. Et tout ça complique les anticipations et fait fuir aussi beaucoup de gens. Et je vois, par exemple, au Canada, juste à titre d'exemple, les demandes d'asile juste pour entre janvier et juin de cette année ont été presque 10 fois plus que les 5 premières années d'avant. Donc, pour dire que vraiment, à quoi on doit s'attendre aujourd'hui en Haïti, qui se rapproche de plus en plus d'une crise humanitaire.
Et on a eu un exemple encore aujourd'hui de la puissance de ces gangs, puisque le 17 octobre est une date importante. On commémore dans le pays l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne. Mais ce matin, la cérémonie habituelle n'a pas eu lieu à cause des groupes armés qui occupaient la zone. Merci à tous les deux. Edzer Emil, économiste, auteur de « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Et Stéphanie Schuller, reporter au service international de RFI. Très bonne soirée à tous. À la semaine prochaine. Décryptage était réalisé ce soir par Claude Battista, attaché de production, Elsa Olaizola et Patrick Adam à la rédaction en chef.